Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Voici 10 ans jour pour jour, il a quitté la montagne qu'il a chantée. Grâce à elle et grâce à d'autres couplets, il demeure au sommet. Je veux parler de Jean Ferrat. Pendant 40 ans, vous l'avez immortalisé, mais sur la pellicule. Aujourd'hui, vous le racontez dans un livre. Bonjour Alain Marouani.
Bonjour.
Alors c'est vrai que pendant 40 ans, et on va en parler, vous avez suivi Jean Ferrat. C'est vrai qu'aujourd'hui, jour pour jour, il nous a quittés, voici exactement 10 ans. Donc on va l'évoquer avec ce livre, avec des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 15 décembre 1963, sortie de cette chanson.
Les Allemands guettaient du haut de Mirador, la lune se taisait comme vous vous taisiez.
C'est Nuit Brouillard. Nuit Brouillard, qu'il a écrit en une seule journée après avoir beaucoup réfléchi et qui est tombé pendant la réconciliation France-Allemagne, ce qui fait que ça n'a pas plu à tout le monde.
Il y a longtemps qu'il voulait parler de ce sujet et il s'est retrouvé un jour sur une plage à côté d'une femme et de sa petite fille. Et la petite fille, voyant un bloco, ça dit « Maman, c'est quoi ça ?» Et la femme n'a pas tellement expliqué que c'était un truc allemand, machin, tout ça. Et là, tout d'un coup, Ferrat a dit « Il faut que je parle de cette période et tout ça. » Alors, il y a eu le film « Nuit et brouillard » qui est sorti et tout ça. C'était une dizaine d'années après la guerre et on commençait à peine à parler de la guerre et des camps de concentration et tout ça. Et tout d'un coup, il a pondu cette chanson absolument sublime qui a été très mal perçu par le pouvoir, car c'était au moment du rapprochement franco-allemand. Mais ça a été déconseillé en radio, enlevé dans des émissions. Enfin, il a eu plein de problèmes à ce niveau-là.
Oui, il en a eu d'autres. Alors, il faut savoir que vous le connaissez bien, Alain Marouani, parce que vous avez travaillé chez Barclay, vous occupiez un peu de tout, et en particulier des photos. Et un jour, vous avez fait une photo de Jean Ferrat qui est arrivé chez Barclay, et après, ça, il ne vous a plus quitté.
C'est-à-dire, Ferrat était quelqu'un de fidèle, et quand il faisait confiance à quelqu'un, c'était pour la vie. Donc j'ai eu la chance d'être son photographe de 64 à 2004, mais personne d'autre ne faisait de photos. C'est ça qui était inouï. C'est très rare chez un artiste.
Et c'est pour ça que dans ce livre, Ferrat l'inoubliable que vous sortez, il y a des photos inédites de Jean Ferrat.
Oui, bien sûr, il n'y a que des inédits. C'était un personnage assez extraordinaire.
On va en parler, mais on va aussi parler d'Eddie Barclay qui vous a engagé, car Eddie Barclay qui avait le génie de trouver les gens, il a réussi, alors que Ferrat était communiste, à l'emmener dans ses dîners et ses soirées et à l'engager.
Barclay, qui était le milliardaire à la Cadillac et au cigare, il a quand même engagé Léo Ferré, il a engagé Jean Ferrat, il a engagé Lavilliers, il a engagé tous ces gens-là qui étaient contre le système Barclay. Mais Barclay avait instauré un système, c'est-à-dire qu'il était extraordinaire. Il invitait les artistes de la concurrence des autres maisons de disques à déjeuner, comme ça, pour rien. Et à un moment, au dessert, le gars, il se demandait ce qu'il faisait là. Et Léo Ferré disait, mais M. Barclay, vous m'avez invité, pourquoi ? Il dit, je voulais savoir comment tu étais dans ta maison de disque, si tu choisissais tes chansons, si tu choisissais ton studio, tes musiciens, tes orchestrateurs et tout. Et le gars, il était vert parce que tout ça, les artistes ne l'avaient pas. Et chez Barclay, c'est vrai que les artistes faisaient ce qu'ils voulaient. Ils demandaient un truc, Barclay disait oui. Parce que Barclay était amoureux des artistes. Voilà. C'est comme ça qu'on a récupéré Ferrat, qui était quand même communiste, Ferré, Lavilliers, Aznavour, Brel, enfin un truc de fou.
Voilà. Et Barclay, bon, pour les plus jeunes, ça ne dira rien, mais pour nous qui avons vécu ça, c'était les Nuits Blanches à Saint-Tropez, c'était ces mariages surréalistes, c'était une fête.
J'ai eu la chance d'organiser tout ça, oui. Toutes les fêtes et tous les mariages.
C'était une
folie. Il m'a engagé, si vous voulez, un peu obligé, parce que mon père, qui était un impresario très important à l'époque, a dit « Tu prends Alain ». Je sortais du service militaire et Barclay m'a pris et m'a dit « Je ne sais pas quoi faire de toi, tiens, il y a une chaise, mets-toi là ». J'ai très vite compris qu'il fallait que je me débrouille pour être indispensable. Ce qui fait que j'ai tout fait dans cette maison.
Voilà. Et les mariages étaient surréalistes. Je me souviens d'un mariage où Francis Blanche a envoyé 2 télégrammes. Le premier, c'était « Je viendrai comme d'habitude ». Et le second, c'est « Je ne serai pas là cette fois-ci, mais je serai là la prochaine fois
oui. ». Non, ce qui était extraordinaire dans les mariages c'était, et dans les fêtes, c'était les chefs 3 étoiles qui venaient. Ça, c'était étonnant. Dans son dernier mariage, il y avait quand même 13 chefs 3 étoiles. Qui peut aujourd'hui réunir 13 chefs 3 étoiles? C'était hallucinant. Et je me souviens de Paul Bocuse derrière sa table, en train de servir de son fameux plat de la soupe aux truffes. C'était inouï, quoi. Inouï. Et je me souviens avoir été dans le bureau de Barclay une semaine après, il reçoit une lettre de Bocuse. « Chéri, dis, c'est formidable, ta fête était extraordinaire, tout ça, blablabla. » 6 juin, ma facture. et la facture, c'était une page blanche.
Oui.
Et c'était ça, les rapports de Barclay avec tous ces gens-là.
Alors, Ferrat aussi avait de bons rapports avec Barclay. Alors, Ferrat, si on revient à lui, son enfance est quand même très particulière, parce qu'il s'appelle Jean Tenenbaum au départ, il est né à Vaucresson, son père vient de Russie, et pendant la guerre, il est obligé de fuir, et il ne reviendra jamais. Ça a marqué Jean Ferrat, jamais.
Son père était joaillier, et il s'était installé à Vaucresson, dans une très jolie maison qui existe toujours, et il avait très bien réussi. Et donc, tout allait bien, et puis il y a eu le fameux jeudi noir de New York en 29, et toutes les affaires se sont écroulées, le luxe s'est écroulé, comme maintenant d'ailleurs. Maintenant, le luxe va très mal. Bon. Et donc, du coup, il a abandonné sa maison, qu'il ne pouvait plus payer, il a abandonné tout ça, il est devenu marchand des quatre saisons. Il vendait des légumes.
À Versailles.
À Versailles, c'est inouï.
Bon, voilà, et il vendait ses légumes au Trianon Palace, où Jean, enfant, l'accompagnait. Et dans le Trianon Palace, il faut savoir que le traité de Versailles a été préparé le 7 mai 1919 par Clémenceau et par les Alliés.
Oui,
dans le salon où ils apportaient les fruits et légumes. Alors Jean Ferrat, il va au lycée Jules Ferry à Versailles, qui existe toujours aujourd'hui. Et il est un très mauvais élève, sauf en français et en histoire.
Oui.
Ça n'intéresse pas vraiment le reste.
Non.
Et curieusement, il a été invité au 85e anniversaire du lycée, comme une vedette, bien sûr. Il n'est pas allé, mais il a envoyé un poème.
Oui, absolument.
Alors, la passion de Jean Ferrat, enfant, c'est la littérature. Il lit La guerre du feu, il lit beaucoup de choses.
Il était étonné quand il rentrait dans une bibliothèque et il se disait « Mais tous ces livres sont à ma disposition. » Il était persuadé que les livres l'attendaient. C'est ça qui est fort. Alors, il lisait beaucoup de livres d'aventure. Donc tout ça.
Sans famille aussi.
Il disait, je veux être contrôleur dans un train, comme ça en voyage.
C'est ça, ça a été sa première vocation. Et puis, il a découvert qu'il était juif, on ne lui a pas dit, il l'a découvert un matin, je crois.
Parce que son père est revenu de la mairie avec des étoiles jaunes. Il ne savait même pas ce que qu'étaient que les juifs. Et tout d'un coup, il voit sa famille porter l'étoile jaune. Ça, ça a été un choc pour lui. Et un jour... Son père, qui n'a pas vu l'histoire des Juifs et des Allemands, il n'a pas senti ça. Il se promenait avec son étoile et puis il n'est plus jamais revenu. Il a été enlevé dans une rafle et il a été déporté. Et on l'a plus. Ça a été un grand choc pour lui.
Oui, mais on n'a jamais su exactement ce qui s'était passé, comment il avait été enlevé. Ça, c'est resté un mystère pour Jean Ferrat.
Oui.
Alors, il faut savoir que si on va au mémorial de la Shoah, et qu'on prend l'année 1942, il y a 48 Tenenbaum qui sont notés.
C'est fou.
48, donc c'est énorme.
Ouais.
Donc le père devait être là-dedans. Alors la guerre, Jean Ferrat va la passer entre le Puy-de-Dôme et Font-Romeu, je crois.
Oui, dans la zone libre.
Voilà, il est caché par des résistants communistes.
Oui.
Et ça va le marquer à
jamais.
Ça a
été le début, oui, c'est le début de son amour du communisme. Oui. Ouais.
Et la valeur de la solidarité.
Absolument.
Et cette guerre, ça l'a marqué, il vous en parlait quelquefois, Alain Marouani ?
Non, parce que... Non, c'est le départ de son père qui l'a marqué. Mais lui, après, il est revenu à Versailles pendant la guerre pour suivre ses études. Il était assez jeune, il avait 10, 13, 14 ans. Donc, il a vu la guerre à Versailles. Il allait se promener dans le château, dans les bois et tout ça. Donc, la vraie guerre, il ne l'a pas vraiment vue.
En revanche, il a commencé à travailler très jeune.
Parce que ses parents n'avaient plus d'argent. Mais enfin,
oui,
sa mère.
Sa mère n'avait plus d'argent. Il a travaillé au départ dans les travaux publics, dans un laboratoire spécialisé dans la résistance du béton.
Oui, absolument. Ça marchait pas mal, mais ça ne l'intéressait pas. Et il a abandonné juste avant d'avoir son diplôme d'ingénieur.
Oui, et il voulait devenir ingénieur. Pourquoi c'est sa mère
Non, ça ou autre chose.
Oui.
Et puis tout d'un coup, lui, il était marqué par la musique... Parce que sa mère avait une voix d'opéra, donc ils chantaient à la maison. À la maison, ils aimaient Trenet, surtout Trenet, mais ils aimaient tous les chanteurs de l'époque. Tout le monde aimait Trenet, d'ailleurs. Brel a dit, si Trenet n'avait pas été là, on aurait tous été des experts comptables.
Exactement. Bon.
Donc, il aimait la musique, et puis il ne savait pas trop... il s'est engagé dans des orchestres de jazz et tout ça, mais il ne savait pas trop s'il voulait être acteur... ou chanteur. Alors, il a pris des cours de théâtre, il a pris des cours de guitare et tout ça. Il a été au TNP, au Théâtre National Populaire, voir
Gérard Philippe.
Et il était amoureux de Lorenzaccio et tout ça, toutes ces grandes pièces et tout. Et puis, il a acheté une guitare et puis il a commencé à faire des textes, des chansons. Et il a compris que c'était plus ça, sa voix, qu'acteur. Donc, il a commencé à faire des petites chansons,
Et justement, ça, on va en reparler tout à l'heure. Parce que je précise qu'il a aussi joué le bossu de Paul Féval. Je crois que c'était son seul rôle au théâtre.
Oui.
Et les chansons, ben, c'est venu un peu plus tard. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 20 septembre 1962. A tout de suite sur Sud Radio avec Alain Marwani pour parler de Jean Ferrat.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, nous fêtons, nous célébrons plutôt les 10 ans de la disparition de Jean Ferrat aujourd'hui, avec Alain Marwani qui a sorti un livre, Ferrat l'inoubliable au Cherche-Midi. Alain Marwani, pendant 40 ans, vous avez photographié Jean Ferrat, et vous le connaissez bien, et on va continuer à l'évoquer à travers des dates. Le 20 septembre 1962 est sorti un film qui s'appelle « Vivre sa vie », un film de Godard en 12 tableaux. Et dans ce film, il y a cette chanson.
Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux. Quoi qu'on dise.
Cette chanson est dans le film de Godard, et curieusement, il y a aussi, on le voit apparaître dans le film de Godard.
Alors, cette chanson, elle vient à contre-courant de l'amorosité ambiante de l'époque. Elle raconte une histoire d'amour dans les milieux populaires et ouvriers. À cette époque-là, les temps sont durs, mais tout est sublimé par la passion, une histoire d'amour qui se passe dans les HLM. Godard tombe amoureux de la chanson et dit « Il faut absolument qu'elle soit dans mon film ». Il ne savait pas comment. Alors, on voit dans le film les yeux d'Anna Karina, en gros, comme ça, où elle est très belle et tout ça. Et puis tout d'un coup, en fond, il y a ma môme. Et puis la caméra se tourne et on voit Jean Ferrat, tout jeune, appuyé sur un jukebox. Et c'est lui qui a mis la pièce pour jouer sa propre chanson.
C'est extraordinaire.
Donc c'est assez fabuleux.
C'est l'apparition de Jean Ferrat au cinéma. Alors, son premier instrument de musique, curieusement, ce n'était pas la guitare, il avait un pipeau quand il était enfant. Il a joué du pipeau et il jouait la petite musique de nuit de Mozart.
Oui, à cause de sa mère.
Voilà, exactement. Et puis, ce qui est étonnant avec Ferrat, c'est que c'est un mélodiste. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui.
Fabuleux.
Mais un mélodiste autodidacte.
Ouais.
C'est étonnant.
Oui, il ne jouait, jouait pas de piano. Il pianotait un peu, mais c'était pas un vrai musicien. Mais quelle mélodie il a sorti quand même.
Ça venait du cœur, de l'âme, et c'était instinctif presque chez lui. Alors, il a appris la guitare et il a passé des auditions dans les cabarets. Et au début, ça se passe pas très bien. Il est mal à l'aise et il a le sentiment d'être humilié, je crois.
D'abord, il imitait Montand.
Oui.
Alors, les gens lui disaient, bon, c'est bien votre truc, mais alors, c'est Montand. Il faut absolument que vous arrêtez d'imiter Montand. Donc, à l'époque, il y avait à Paris plus de 200 cabarets. Mais c'est inimaginable. Mais partout, il y en avait. Et il fallait que chaque cabaret et ses chanteurs. Alors, les chanteurs débutants faisaient 6 cabarets par jour à 20 € à chaque fois. Et il y avait Aznavour, il y avait Brassens, Béart, oui. Il y avait Béart, il y avait tous ces gens-là qui se retrouvaient dans les cabarets. Il n'y avait pas de loge parce que les cabarets étaient tout petits. La loge était la rue. Donc, ils attendaient dans la rue avant de passer sur scène. Enfin, c'est un truc de fou.
Et la première chanson que Ferrat ait testée dans les auditions, dans les cabarets, il l'a enregistrée ensuite, c'est « Les yeux d'Elsa ».
Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire.
C'est vrai que c'est la première rencontre avec Aragon.
Ah bah, c'est la grande rencontre de sa vie. Ça s'est passé d'une façon incroyable. Il était dans une édition musicale où il voulait proposer ses musiques. Et il y a un gars qui s'appelle Vander, qui était un grand directeur artistique de l'époque, qui lui dit « C'est marrant, cette musique, ça y revient sur un poème, attends voir de qui déjà. » Il va dans la bibliothèque et il sort un livre d'Aragon. Il dit « Tu vois, regarde les yeux d'Elsa, je suis sûr que cette musique va. » Et ça a été le démarrage d'une histoire incroyable avec Ferrat et les chansons et les poèmes d'Aragon.
Voilà. Et Ferrat est passé dans plusieurs cabarets où il a été jeté d'ailleurs. Il y en avait un où il a un peu chanté, qui s'appelait chez Moineau. Et c'était un restaurant que Barra fréquentait. Et le patron, elle le surnommait Bling Bling parce que sa caisse faisait Bling Bling.
Oui, ils étaient spécialistes de couscous d'ailleurs.
Exactement, ils chantaient là-bas. Et puis il a débuté à La Colombe, un cabaret où ont débuté beaucoup d'autres, chez Michel Valette. Et l'un de ses premiers fans, je crois que ça a été Henri Salvador.
Alors, oui, il adorait Salvador, qui était une vedette à l'époque. Oui. Hein, il y avait Montand, Salvador, Chevalier, tout ça. Alors, chez Valette, ce qui était extraordinaire, c'est que tous les chanteurs gagnaient la même chose. C'est-à-dire, si c'était 20 €, tous, les vedettes, pas vedettes et tout. Et l'importance était dictée par l'ordre de passage. C'est incroyable.
Effectivement, et il passait au début, au début du spectacle, et puis à la fin, quand il était devenu un peu plus vedette.
Voilà. Et là, Barbara a fait une audition, et on lui a dit, vraiment, vous n'êtes pas doué, mais on a une place de plongeuse à la cuisine, si vous voulez.
Oui.
C'est un truc de fou.
Peut-être l'erreur qu'a fait Michel Valette. Et la première critique que j'ai retrouvée, et qui est à la colombe chez Michel Valette, de Jean Ferrat, on le félicite en disant « C'est extraordinaire, le 10e de publicité qu'on a fait sur les chansons de Sagan ferait du bien à Jean Ferrat. »
Ah oui.
Et il le méritait. Il a aussi, alors, pas comme chanteur, mais fait la tournée des églises en vendant des disques qu'il gravait.
Oui, il avait un camion. Il avait un camion et il faisait les églises avec les chorales et il enregistrait dans son camion sur un disque souple et il vendait les disques à la sortie. Il y a des gens qui faisaient en photo, ça existait beaucoup, oui. Les cars de touristes qu'on photographiait et on venait vendre les photos à la fin.
Voilà, et maintenant on vend les disques à la sortie des concerts, c'est le seul moyen de les vendre. Oui. Et puis, alors il ne s'appelle pas encore Jean Ferrat, il s'appelle Jean Laroche, et quand Aznavour est la vedette à l'échelle de Jacob, il y a Jean Laroche chez Suzy Lebrun qui a aidé beaucoup de gens, dont Brel et Le Luron.
Voilà, et il a voulu, comme il commençait à faire des chansons, il a voulu déposer des chansons à la SACEM, pour ses droits d'auteur, et on lui a dit « Ah mais monsieur, là, Jean Laroche s'est déjà pris par quelqu'un d'autre. » Alors il est très très embêté, il rentre chez lui, il prend un atlas, il ouvre l'atlas et il met un doigt, et il tombe sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le sud de la France, il dit « Ah bah tiens, Ferrat, c'est pas mal. »
Voilà, et c'est comme ça que c'est né. Et l'échelle de Jacob, c'était un lieu où beaucoup de gens ont démarré. Mon temps a débuté à l'échelle de Jacob.
Alors, il y avait surtout à la tête une femme qui s'appelait Suzy Lebrun, qui était extraordinaire, avec un nez formidable. C'est elle qui, à l'arrivée de Brel à Paris, lui a payé une guitare pour faire l'audition. C'est extraordinaire, quand même.
Et Brel l'en a remercié quand il a fait ses adieux à l'Olympia en 66. Il est venu chanter 15 jours gratuitement chez
presque chaque année.
Oui. Mais à la fin, oui. Jusqu'à la fin, et c'était bondé jusqu'à la rue, ouais. Et ils faisaient ça gratuitement pour
les
remercier.
Les gars qui venaient, ils savaient pas ce qu'ils allaient voir, tout d'un coup, ils avaient Brel en spectacle, c'était un truc de fou.
C'est un truc de fou, mais on peut plus imaginer.
Mais Brel était comme ça. Hein.
Oui. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est que Jean Ferrat a tourné dans un film de Guitry qui s'appelle « Si Versailles m'était compté ».
Oui, enfin, en tant que figurant. Hein,
oui,
même.
Mais on le voit quand même à l'écran.
Oui, absolument.
Et c'est arrivé comment, ça, c'était...
Bah, parce que tous ces gens-là qui n'avaient pas d'argent pour vivre, ils faisaient les petits cachets. Ouais. C'est-à-dire, ils faisaient figurants dans des films, ils faisaient au théâtre, ils faisaient des tout petits rôles et tout ça. Et sa femme était comme ça.
Christine Sèvres.
Quand Christine Sèvres, qui a choisi son nom, toujours pareil, en ouvrant un atlas et en mettant le doigt, elle est tombée sur Sèvres Babylone. Métro, elle a dit, tiens, c'est bien Sèvres.
Et elle avait une fille qui est devenue la belle-fille de Jean Ferrat, qui chante aujourd'hui, qui s'appelle Véronique Estelle, qui a préfacé votre livre.
Absolument, une fille charmante.
Absolument.
Et qui a un théâtre à Aubenas, en Ardèche, et qui pérennise l'image de Ferrat et qui fait des petits festivals, des choses comme ça.
Oui, contre l'avis de Ferrat, qui au début lui avait dit, mais c'est une folie, et puis ça marche.
Oui.
Et puis, il y a quelqu'un qui l'a repéré, c'est Gérard Metz, qui est devenu son ami, son agent. Son
producteur. Gérard Metz était directeur artistique chez Philips.
Oui.
Et un jour, il fait une audition, il auditionne Christine Sèvres. Et là, il tombe amoureux d'une chanson, il lui dit, mais c'est quoi cette chanson? Et Sèvres lui dit, bah, écoutez, c'est une chanson de mon homme qui passe dans un cabaret, si vous voulez, venez le voir. Il va voir Ferrat dans le cabaret, il tombe amoureux de Ferrat, et il le propose, puisqu'il était chez Philips, il le propose au grand directeur de Philips, qui était Jacques Canetti, qui avait découvert Brel, Brassens, Béart, Gainsbourg, tous ces gens-là, dit « moi, je ne crois pas du tout en Ferrat ». Alors là, ça ne l'a pas du tout intéressé. Donc, Gérard Metz, qui était tombé amoureux de la voix et du personnage, a démissionné de chez Philips, et il ne s'est occupé que de Jean Ferrat toute sa vie.
Et il y a une anecdote, il va déjeuner chez Ferrat et sa mère avait grillé deux poulets, ce qui l'a impressionné. Et après ces poulets, il a pris Jean Ferrat sous son aile, ce qui est logique.
Oui.
On va continuer à parler de lui dans quelques instants à travers une autre date, le 6 octobre 1972.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, aujourd'hui, eh bien, Jean Ferrat nous a quittés voici 10 ans. On l'évoque avec Alain Marouani qui a écrit ce livre « Ferrat l'inoubliable », qui en même temps a été le photographe de Jean Ferrat pendant 40 ans. Et une date importante, c'est le 6 octobre 1972, un palais des sports où, quand Ferrat entre en scène, le public se lève et il chante « Ma France ».
De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France.
Alors cette chanson, au départ, d'après mes renseignements, il l'a écrite après 1968, il l'a appelée « Pauvre France oui. ». Il s'est dit « je ne peux pas faire ça, il vaut mieux que je parle de ma France, c'est trop oui. négatif ».
Elle fait partie des cinq ou six chansons révoltées, c'est-à-dire Potemkin, Nuit brouillard, Ma France, Le bilan et Camarade. Toutes chansons qui ont été déconseillées par, pour passer à la télé et à la radio. Donc, c'est une très belle chanson.
C'est une très belle chanson et en même temps, ça marchait auprès du public. Le Palais des Sports a été complet pendant trois semaines, ce qui était beaucoup à l'époque. Il a fait une tournée de six mois. Alors, après, il a arrêté, mais il ne pensait pas qu'un jour, il ne remonterait pas sur scène. Il pensait remonter un jour sur scène.
Il y a des artistes qui adorent la scène et lui, il n'aimait pas ça. Il y avait un autre artiste qui s'appelait Mort Schumann. C'était un calvaire pour lui de monter sur scène. Et... Brel a fait la même chose. Hein. Oui. Brel a tout d'un coup, un jour, décidé « Stop, j'arrête ». Il en avait marre. Parce que c'est vrai que les tournées, c'est pas très drôle pour les artistes. Vous passez vos nuits dans les chambres d'hôtel tout seul, vous êtes assailli par les fans. À un moment donné, ça va bien, mais à un moment donné, ils en ont marre. Donc, Ferrat, qui avait les moyens, parce qu'il vendait beaucoup de disques, de se retirer, il a fait un peu on rêve tous de ça, c'est-à-dire avoir assez d'argent pour se retirer dans un coin qu'on aime. Il a fait ça, il est parti en Ardèche.
Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a terminé en 72, 73, et pour plein de gens, il a chanté jusqu'aux années 90, parce qu'on a tellement parlé de lui ensuite qu'on avait l'impression qu'il était encore en scène.
On a parlé de lui parce qu'il a sorti quand même un 33 tours tous les 5 ans.
Oui, et un 33 tours.
Où il vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques.
Alors, sa dernière scène, curieusement, je ne sais pas si vous le savez, à la Marmoigny, c'est le 10 décembre 2004, à la Fête de l'Humanité. Il y a un hommage, et il chante, il monte sur scène pour chanter les Cerisiers a cappella.
Oui, et ça a il l'a fait plusieurs fois, ça. Il le faisait de temps en temps, comme ça, surtout pour le Parti communiste. Il montait sur scène et puis il chantait une chanson. Et la foule était en délire, mais ce n'était pas prévu. Hein.
Non, c'était improvisé. Alors, ces récitals, justement, ça a commencé à l'Alhambra. Et il mettait toujours des premières parties parce qu'il ne voulait pas faire de concert. C'était trop difficile pour lui.
Alors, l'Alhambra, ça s'est passé comme ça. Le poète Bernard Dimet, qui s'occupait de la chanteuse danseuse,
Zizi Jeanmaire,
cherchait des chansons, avait entendu Ma Môme et tout ça. Il trouvait ça assez populaire, et comme Zizi Jeanmaire était une chanteuse populaire avec une gouaille incroyable, il a demandé deux chansons à Ferrat, et Zizi Jeanmaire est tombé amoureux des chansons et du personnage. Et du coup, elle lui a dit « Écoute, t'es tellement formidable que tu vas faire ma première partie ». C'est comme ça que Ferrat a commencé la scène, à l'Alhambra, en première partie, et ça a duré
six mois.
Plusieurs mois.
Hein, ah ouais. Oui, bien sûr. Six mois, c'était un triomphe qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Après, il a donné des récitals à l'Alhambra. L'Alhambra qui n'existe plus aujourd'hui, ce n'est pas la même Alhambra. C'était l'Alhambra de Maurice Chevalier. Et en première partie, il y avait Memphis Lee, ce qui est assez particulier.
Un monsieur que j'adore.
Oui, mais avec Ferrat, c'est assez étonnant.
Ah ouais,
et Bobby Lapointe. Et la mise en scène, c'était de Jean-Christophe Averty, qui avait fait une mise en scène complètement délirante. Et ça, c'était le clin d'œil de Ferrat pour s'amuser.
Ce qui lui a fait plaisir quand il était vedette à l'Olympia, c'est que Henri Salvador est venu le voir avec sa femme pour le féliciter. Et pour lui, c'était le plus beau des cadeaux, car pour lui, il adorait Henri Salvador quand il était jeune, même pas chanteur, il adorait le personnage et le style des chansons. Donc qu'il vienne le féliciter dans la loge, c'était formidable.
Et puis, il y a ensuite un voyage qui l'a marqué, dont il a tiré une chanson, Jean Ferrat.
À Santiago de Cuba, le carnaval nous entraîne. Quatre nuits sans perdre haleine. L'orgue oriental se déchaîne. Et moi qui danse comme un trône.
Mais il dansait très mal et le carnaval de Cuba, il a tenté d'y aller, mais c'était une catastrophe parce que justement, les pas sur la piste,
alors,
c'était
le
pas
le voyage simple. De Cuba, c'est un voyage extraordinaire. Parce que pour lui, Cuba, c'était la liberté, c'était une nouvelle société. Voilà. Fidel Castro, tout ça, ça lui plaisait bien. Et autant il a refusé d'aller en Russie, plusieurs fois, autant à Cuba, il s'est dit « j'y vais, c'est pas possible, c'est trop beau », tout ça. Et il est tombé dans un pays formidable pour lui, où tous les gens étaient armés, il y avait une espèce d'ordre incroyable et tout ça. Il avait emmené ses musiciens, mais sans trop savoir ce qu'il allait en faire. Et du coup, il a fait un gala, ça a été tellement fabuleux qu'il a été obligé de faire 5 ou 6 galas. Les gens ne comprenaient rien.
Mais il connaissait ses chansons.
Il connaissait bizarrement ses chansons. Et du coup, il a fait imprimer à ses frais les paroles des chansons en espagnol. Et il les a distribuées dans la salle avant le spectacle. Donc ça, c'est, pour lui, Cuba a été une expérience fabuleuse, dont il a ramené d'ailleurs sa moustache.
Oui, alors la moustache de Ferrat est née à Cuba, curieusement. Pourquoi ?
Non, elle est née au Mexique.
Oui.
Parce qu'après Cuba, il a renvoyé ses musiciens à Paris, et sa femme, et il a dit, tiens, je vais aller voir le Mexique. Il a été voir le Mexique, là, il est tombé amoureux du Mexique. Et pour la petite anecdote, il se promène en voiture dans un village, et tout d'un coup, il entend la Marseillaise. Alors là, il s'est dit, c'est quoi ce truc-là ? Il descend, il voit une espèce de café avec des drapeaux français partout et tout ça, la Marseillaise. Alors il s'approche, il dit, mais c'est quoi ça ? Mais monsieur, vous ne savez pas qu'on est le 14 juillet et que nous adorons les Français et nous fêtons la Révolution française, nous fêtons les droits de l'homme. Ah bon ? Alors il a été surpris. Les Mexicains auraient pu être très méchants vis-à-vis des Français parce que Napoléon III voulait mettre la main sur le Mexique, il avait envoyé... Un empereur, Maximilien Ier, le frère du l'empereur d'Autriche, et il avait mis sur le trône du Mexique ce fameux Maximilien. Mais ça s'est très très mal passé, et du coup ils l'ont fusillé.
Et donc il a vu une moustache, il est revenu avec la moustache, oui. Et à tel point qu'à Entraigues, le forgeron a été le premier à se laisser pousser la moustache, et d'autres ont suivi.
Ah ben, beaucoup d'autres ont suivi.
Alors il y a eu aussi mai 68, mai 68 bien sûr ça a concerné Jean Ferrat, je crois qu'il a donné le 13 mai un récital aux usines Renault, il ne pouvait pas faire autrement.
Oui, il ne pouvait pas faire autrement, et puis il a été de toutes les réunions, il se passait beaucoup de réunions showbiz, mai 68, à Bobino. Donc là, il était là. Il a aidé beaucoup de gens aussi. Il était très généreux.
Hein. Oui. Et il a aussi aidé, curieusement, les journalistes de télé. Lorsqu'ils ont été virés, il y a eu une manifestation parce que Zitrone, Drucker et quelques autres ont été virés de l'ORTF.
Il était en première ligne.
Il était en première ligne, alors qu'il n'aimait pas la télé, parce qu'il n'aimait pas les conditions de travail et trouvait les cachets trop faibles. Mais il fallait les aider.
Oui, oui.
Et puis, parmi les autres chansons engagées, il y en a une, bien sûr, on ne peut pas passer à côté.
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan ? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des quatre vents ?
Potemkin.
Alors, c'est une réaction contre la révolution russe. Potemkin, c'était un cuirassé. Il y a eu une révolte sur ce cuirassé des marins à qui le commandant... voulait faire manger de la viande avariée. Donc, tous les marins se sont révoltés. Il y en a la moitié qui sont morts. Et c'est devenu un exemple pour une image de révolution. Donc, Ferrat a fait donc Potemkin, une très belle chanson, d'ailleurs.
Oui, et puis, il l'a chantée dans Discorama, après la réélection de De Gaulle. C'est la seule fois où il a pu la chanter.
Et ça ne s'est pas bien passé.
Oui. Non, parce que d'abord, il a découvert que la chanson était une arme politique, et on l'a ensuite interdit à la télé avec cette chanson, et je crois qu'il a donné une conférence de presse pour s'en plaindre.
Bien sûr. Mais oui, oh là là, il est... La révolte de Jean Ferrat, c'est tout un pan de son histoire.
Ouais. Et il y a un directeur de la télévision qui s'appelait André François qui a dit que Ferrat chante mais qu'il ne parle pas.
Oui,
ce qui a découplé sa colère.
Oui, oui. C'est-à-dire que pendant l'émission, il a fait passer un mot à l'animateur de l'émission que Ferrat chante mais qu'il ne parle surtout pas.
Oui, mais ça, il s'en fichait. Il parlait quand même quand on l'invitait.
Oh, oui, bien sûr.
Mais il savait très bien ce que lui coûtaient ses chansons puisqu'il a dit un jour « Les droits d'auteur de ma France », chansons également, non pas censurées mais déconseillées, c'est quand même plus joli, « Les droits d'auteur de ma France sont 30 fois inférieurs à ceux de l'idole à papa à cause de la censure. »
Ah, bien sûr.
Alors, il y a aussi...
Les radios l'ont beaucoup soutenu, hein, par contre.
Oui.
Je me souviens, à Europe 1, Lucien Maurice, le patron... Il a fait une émission spéciale de plusieurs heures sur Nuit et brouillard, parce que c'était interdit de télé, mais lui, il a dit non, non, non. Et donc les radios l'ont pas mal soutenu.
Ils ont soutenu Brassens aussi à ses débuts, quand il était censuré avec Le Gorille. Alors un jour, Jean Ferrat devait chanter à Tête de bois 30 années d'Albert Reisner, et puis ça n'a pas été possible, il a quitté le plateau parce qu'on voulait le censurer.
Oui, oui, absolument.
C'était lui, ça.
Oui.
Et il n'y en avait qu'un qui trouvait grâce à ses yeux, et d'ailleurs qui a été très proche de lui jusqu'au bout.
Brassens.
Drucker.
Ah, Drucker. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Drucker, oui, oui, évidemment. Drucker l'a toujours défendu. Ils étaient très amis. Ils se téléphonaient pratiquement tous les jours. Ah oui.
Jusqu'à la fin...
Il a accepté de faire de la télé qu'avec Drucker.
Voilà. Il a fait un Star 90 où il a donné un récital, ce qu'il n'a jamais fait autrement.
Oui, bien sûr.
A tout de suite sur Sud Radio avec Alain Marouani pour parler de Jean Ferrat.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Jean Ferrat avec Alain Marouani. Aujourd'hui, ça fait exactement 10 ans que Jean Ferrat nous a quittés et vous l'évoquez dans un livre qui s'appelle « Ferrat inoubliable » au Cherche Midi, un livre de textes et de photos. C'est-à-dire que vous avez écrit la vie de Jean Ferrat telle que vous l'avez connue.
Ah oui, complètement. Oui, je ne me savais pas écrivain et puis... Quand j'ai fait le texte et que je l'ai donné au Cherche Midi pour le réécrire, comme font tous les personnages qui font des livres, ils m'ont dit « Ah non, 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 faut rien toucher, c'est du vécu. » Alors non, 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 tel quel.
Voilà, alors c'est du vécu avec des photos inédites parce qu'on voit Ferrat chez lui, à Entraigues, on voit des photos de scène. Encore une fois, ce sont des photos que vous aviez, qu'on n'avait jamais montrées.
Ah oui, ben, en 40 ans de vie commune avec Ferrat, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Donc je les sors avec parcimonie, disons.
Alors, il est aujourd'hui non seulement dans les chœurs, mais dans les écoles, parce que dans les écoles, on apprend à Alain Marouani cette chanson.
Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Cette chanson, il l'a écrite à Entraigues. Hein.
Oui, c'est la première chanson écologique.
Oui.
Il était furieux du départ de tous ces gens qui allaient dans les villes et qui perdaient leurs racines, leurs vraies racines. Dans l'image du public, Ferrat, c'était la revanche du bon pain cuit au four contre les soupes en poudre. C'était la revanche du châtaignier sur la matière plastique, des montagnes enneigées sur les HLM. Voilà, il a un peu opposé tout ça. Et il était contre l'élevage en batterie, tout ce qu'on fait en ce moment, des poulets, des vaches et tout ça. Et il était pour l'élevage en liberté. Donc cette chanson, c'est une chanson... c'est devenu sa chanson. D'ailleurs, à son enterrement, quand on a pris le cercueil et qu'on l'a conduit... au cimetière, eh bien, il y avait 5000 personnes qui chantaient la montagne.
Oui.
C'était très émouvant.
Et Entraigues, il l'a connu au départ grâce à un ami peintre, Jean Sossac, qui était maire à l'époque d'Entraigues, membre du Parti communiste, qu'il a un jour invité avec Christine Sèvres à Entraigues.
Il est tombé amoureux du coin et du coup, il a acheté une ruine qu'il a refait. Et il s'est devenu sa maison, son village, tout ça. Il s'est très, 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 très intégré puisqu'il est devenu adjoint au maire. Et puis il a été très généreux, il a acheté l'hôtel, il a acheté un restaurant, il a construit un tennis pour les jeunes. Il était devenu un gars du coin.
Voilà. Il est arrivé à bord d'une vieille Aronde grise par la Nationale 7, c'était encore à l'époque, le coup de foudre. Et puis bon, il s'est installé là et vous êtes régulièrement allé là-bas.
Oui, moi j'allais passer quelques jours de temps en temps. Il venait aussi à Paris, hein, parce qu'on a fait pas mal de photos en studio. Mais là-bas, il était très disponible. Alors, le voir pêcher... des truites à la main sous les gros rochers, parce qu'il avait une espèce de maison sur le bord d'une montagne où en bas il y avait une grande rivière qui était chez lui d'ailleurs. Et là, non seulement il permettait aux gens du village de venir se baigner l'été, mais en plus, moi je l'ai vu, puisque c'était un grand cuisinier, je l'ai vu pêcher la truite à la main sous les gros rochers et puis. Sortir des énormes truites, et le soir, on se tapait des truites, c'était une merveille.
Oui, car Jean Ferrat, on ne le sait pas, s'est mis à la cuisine. Je crois que la première spécialité, c'était la purée de sa maman.
Absolument, mais il allait plus loin après, il a fait des terrines de faisan au foie gras, du lapin aux herbes engelées, des truites aux noisettes et aux châtaignes.
Et les légumes du jardin.
Et les légumes du jardin.
Et cette maison, c'était une maison toute simple, c'est-à-dire que...
Oui, c'était une maison toute simple, enfin... Une maison idéale, quoi, avec des potagers, rivière, maison en pierre sèche. Oui, c'était bien, mais ce n'était pas très ostentatoire, hein, non.
Non, et c'était bon.
Ferrat n'était pas ostentatoire.
Non,
c'était simple.
Et surtout, il y avait un petit bureau où il écrivait les chansons.
Oui,
c'était minuscule.
Oui, avec un piano et une guitare. Voilà.
C'est tout. Et il écrivait là-dedans. Et quand vous y alliez, donc il vous appelait, il disait viens la semaine prochaine.
Le problème, j'y allais quand on avait des photos de pochettes de disques à faire. Donc j'y allais, et là, au lieu de faire 3 photos, j'en faisais 1000.
Voilà. Et il acceptait, il était heureux avec vous, il avait confiance.
Ah, mais incroyable, incroyable. Attends, au début, je l'habillais. Parce qu'au début, moi, il est arrivé avec des pulls tricotés par maman. Alors, mes séances photos, c'était, bon, qu'est-ce que je vais lui mettre? Et j'arrivais avec une foule de trucs, et je l'habillais. Par la suite, avec sa femme, qui avait compris le truc, elle l'a bien habillé. Après, il allait chez les bons faiseurs et l'habillait. Mais moi, la plupart des photos, c'est ma veste, mon pull, mon truc.
Mais c'est fou, ça. Ils s'en fichaient complètement.
Mais je le faisais avec beaucoup d'artistes, ça. Oui. Avec Brel, avec Balawan. C'est moi qui les habillais.
Alors, il avait aussi appris l'art de faire la soupe, je crois, Jean Ferrat.
Alors, c'était son dada. Moi, il m'a emmené un jour chez une vieille dame dans un espèce de maison perdue dans la montagne où il y avait tout juste l'électricité, mais l'eau, il n'y avait pas l'eau courante. Et il se chauffait avec la cheminée. Et dans la cheminée, il y avait une espèce de gros faitout. Et là, il y avait une soupe. Et son truc, c'était... Il me dit, tu vois, cette soupe, il faut 100 ans pour la faire. Il faut 100 ans. Et là, cette dame, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, mais alors, ça sentait bon et c'était beau. Et ça a été un souvenir extraordinaire de voir ces vieilles femmes nous servir la soupe dans un vieux bol comme ça, qui fumant, et on a mangé cette soupe, et cette soupe qui avait 100 ans.
C'est fou, ça. Alors, les fêtes aussi, c'était les gens du village, des gens célèbres qui passaient, comme Nino Ventura, Pierre Perret ou Claude Nougaro. On se mettait le soir autour du piano. Et d'ailleurs, je crois que Nougaro a failli acheter une maison tellement il était amoureux d'Entraigues.
Absolument. Tout le monde allait le voir.
Et puis, c'est là qu'on chantait des chansons des autres, mais aussi de ses propres chansons, comme celle-ci.
La même innocence les faisait trembler.
Deux enfants au soleil, qu'il a écrit pour Isabelle Aubray. Il considérait que c'était de la soupe pour lui, mais cette chanson a été aussi très populaire.
Isabelle Aubray a eu un accident très grave d'automobile à un moment donné. Et tout le showbiz lui est venu en aide. Brel a fait une tournée qui était dévolue à
Isabelle Aubray.
Isabelle Aubray, et lui a donné la recette. Tu vois ? Bon. Et puis, Ferrat lui a donné cette chanson, qu'il a d'ailleurs enregistrée par la suite.
Oui, et Isabelle Aubray, d'ailleurs, heureusement, elle a repris la route. Et la semaine dernière, on a inauguré chez elle, à Marquette, où elle est née, une salle Isabelle Aubray.
Ah, sympa.
Avec le maire qui était son copain d'enfance. C'est assez drôle.
Ah, super. Ouais.
Alors, une autre chanson qui est aussi importante dans la vie de Jean Ferrat, c'est « On ne voit pas le temps passer ».
Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume, et voilà tout son univers.
Cette chanson, c'est un hymne à l'amitié. C'est dans le film de René Alliot, La vieille dame indigne. Et je crois que l'amitié, c'était essentiel pour Ferrat.
Essentiel, oui. Quand il avait donné son amitié, c'était pour la vie. Il y avait des gens, pas forcément connus chez lui, mais des gens du coin, des gens, des peintres, de partout. Il les invitait à faire des repas somptueux. L'amitié, c'est important.
Oui, et si quelqu'un disait du mal de quelqu'un d'autre, il le virait aussitôt.
Oui, il acceptait. Barclay était comme ça.
Oui.
Barclay n'acceptait pas qu'on dise du mal des gens, même s'il le méritait.
Et il ne supportait pas, Jean Ferrat, je crois, les ambitieux et les agressifs.
Bah, on est tous comme ça, hein.
Oui. Mais il préférait les incultes aux intellos.
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'il préférait un bon cuisinier, un menuisier, des gens comme ça, quoi.
Et puis, un sou était pour lui un sou, parce qu'il se souvenait du temps des vaches maigres.
Oui, oui, oui. Il a gagné beaucoup d'argent, il est mort très riche.
Oui, mais en faisant attention.
Il faisait attention, mais tous les artistes sont comme ça.
Et puis, il a organisé à Entraigues des spectacles. Il y a eu un spectacle avec Brel et Ferrat, la nuit d'Entraigues en 66, c'est extraordinaire.
La nuit d'Entraigues, oui, c'était incroyable. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ça a été fabuleux. Il y avait 5000 personnes... Et comme guest star, il y avait Brel, c'était quand même assez étonnant.
Oui.
Il y avait des chanteuses du coin.
Et c'est une chose qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Brel était venu par amitié pour Ferrat.
Oui, bien sûr, oui, uniquement. Et comme les gens qui venaient aux fêtes Barclay ou au mariage Barclay venaient par amitié pour Barclay.
Et donc on venait pour Ferrat. Et puis il y a une autre chanson qui est culte encore aujourd'hui, dont il a fait la musique, c'est « La femme et l'avenir de l'homme ».
Je déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme.
C'est Aragon. Il y avait des conversations tout à fait littéraires, pas politiques, entre, je crois, avec Jean Ferrat à la Marouani.
C'est-à-dire que. Ferrat le respectait beaucoup, le vouvoyait d'ailleurs, ouais. Aragon. Ils se sont vus quelques fois. Aragon était tout à fait d'accord que Ferrat triture ses chansons, mette des vers en. Mais change de place les vers et tout ça. Il avait une confiance incroyable en Ferrat. Et de toute façon, Aragon adorait qu'on chante ses chansons.
Voilà. Et il a fait aussi d'autres chansons, des chansons d'amour. Et cette chanson est importante, c'est « Que serais-je sans toi ?»
Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi ? Ce balbutiement.
Ça aussi, c'est une très belle chanson. C'est pour qui ? C'est pour sa première femme, Christine Serre, ou c'est pour Colette, sa seconde femme, ou pour toutes les
non,
femmes ?
Non, c'est pour Christine. Ça.
Voilà.
Mais moi, il y a une chanson que j'adore et que le public connaît mal. C'est une chanson qui s'appelle La Matinée.
Oui.
Et c'est la seule chanson qu'il chante avec Christine Sèvres, sa première femme. Elle est extraordinaire. Et j'invite le public à aller sur Internet faire La Matinée et Jean Ferrat. Et il y a un clip qui est d'une beauté incroyable. Ça, c'est vraiment un coup de cœur.
Et Christine Sèvres l'a beaucoup soutenu. Ils se sont soutenus mutuellement à leur début.
Christine Sèvres marchait mieux que lui au début. C'était une chanteuse de cabaret reconnue. Mais par la suite, le succès de Ferrat lui a fait de l'ombre. Et elle n'a jamais réussi à imposer sa carrière. Et pourtant, elle a eu des grands prix du disque. Elle a fait des disques. Elle n'a pas eu de chance parce que son premier 33 tours, elle l'a sorti le 10 mai 68 en oui. Pleine révolution. Alors du coup, la révolution est passée avant son disque.
Voilà. Alors il y a aujourd'hui même une chanson inédite de Ferrat qui sort, je ne sais pas si vous le savez. Il y a dans son 33 tours enregistré en 1991, il y avait une chanson qui restait, qui devait être pour un album suivant, qui n'est jamais sorti. Et cette chanson, ben, on l'écoute, « Qu'as-tu fait du temps des cerises ?»
Dis-moi, qu'as-tu fait du temps des cerises ? Rouge du sang des copains, le maire, le moqueur a fait sa valise.
Cette chanson, personne ne la connaît. Elle est sortie aujourd'hui même. Elle a été exhumée des archives parce qu'elle devait être la première chanson de l'album suivant de Ferrat qui n'a jamais fait d'album.
Mais j'ai participé à cet album. J'ai fait toutes les photos oui. et la mise en page. Il y a ce disque-là qui sort qui s'appelle. Les plus belles chansons de
Je ne chante pas pour passer le temps.
Voilà, et puis il y a un 33 tours qui s'appelle Les chansons déconseillées et interdites oui. de Jean Ferrat, avec toutes les chansons un peu qui ont eu des problèmes.
Alors il paraît que c'est le seul inédit qui reste, qu'on n'aura pas d'autres bonnes surprises, hélas.
Oh, ils sont capables de tout. Si, ils vont trouver des trucs.
Et alors justement, par rapport à Jean Ferrat, il y a une chanson qui est aussi mortelle que les autres, une chanson d'espoir, c'est Beau la vie.
Que c'est beau. C'est beau la vie, tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi.
C'est vrai qu'il a dit c'est beau la vie. C'est Michel Senlis qui, un jour, auteur de la chanson, qui a lancé cette expression, et c'est devenu le titre de la chanson. Et c'est vrai que ça correspondait à l'amour de Ferrat pour la vie. Et c'est quelqu'un qui reste dans les cœurs et qui restera.
Il n'est pas mort, en fin de compte. Il reste dans le cœur des Français.
Et c'est ça qui est important. Et pour celles et ceux qui l'aiment, je recommande ce livre d'Alain Marouani, Ferrat l'inoubliable, au Cherche Midi, avec son histoire et avec des photos totalement inédites. Merci Alain Marouani d'être venu dans Les Clés d'une Vie. Merci d'avoir si bien raconté Jean Ferrat et de vous en souvenir.
À bientôt.
À bientôt, bien sûr, pour d'autres artistes que vous avez photographiés.
D'autres aventures.
Voilà, dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres Clés d'une Vie. Bonne journée, merci, à demain.